L'essentiel étant de gronder, grogner, ricaner, s'esclaffer, psalmodier, pleurnicher, chantonner, soupirer, chuchoter. Du jour au lendemain avec Philippe Solers, qui publie Le Secret, un roman, chez Gallimard. Le Secret, Philippe Solers, j'ai presque envie de dire que c'est un retour.
Oui, enfin si on veut. En tout cas, c'est le retour d'un fait qui a occupé beaucoup les écrans, les interprétations diverses. Le retour d'un fait massif qui me paraît un des plus intéressants du XXe siècle, comme fait instantané. C'est cet attentat qui a eu lieu le 13 mai 1980 sur la place Saint-Pierre de Rome, où un Turc sorti d'une organisation plus ou moins terroriste et clandestine, qu'on disait d'extrême droite, mais qui se révèle petit à petit comme étant en corrélation avec le trafic de drogue
oui, mais
en Europe.
Je vous interromps tout de suite.
Attiré un coup de revolver.
Je voulais parler du retour à cette matière explosive,
oui.
Aussi, qui commet aussi des attentats, et qu'on appelle la littérature.
Alors, la littérature est-elle capable de traiter l'histoire du XXe siècle? C'est le sujet de mon roman. En est-elle capable? Au lieu de raconter des histoires plus ou moins exotiques, psychologico-romantiques, plus ou moins débilitantes et rêveuses et amoureuses et pseudo-métaphysiques, est-elle capable de traiter l'énormité du XXe siècle? C'est la question que je pose. Il me semble qu'elle ne peut pas ne pas être posée à la fin de ce qu'on appelle le XXe siècle, c'est-à-dire en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de massacres, de charniers, de saloperies et de désinformation, surtout, pendant si longtemps, qu'on a envie de reprendre les choses un peu à zéro. D'ailleurs, l'histoire balbutie, tâtonne, est obligée de se remettre au début du siècle pour penser ce qui s'est passé pendant ce siècle. Vous avez une conversation avec le ministre de la Défense des armées, qui vous dit « Ah, ben moi, je suis obligé de travailler maintenant avec de vieux atlas, sans quoi je ne comprends pas la situation dans l'ex-Yougoslavie. Parce que les frontières, ce ne sont plus celles qu'on a dessinées, etc. » Enfin, tout est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que cet énorme poumon dit pays communiste entre guillemets, en réalité empire stalinien, tout à coup s'est liquéfié, et que donc ça fait surgir énormément de questions, beaucoup plus qu'on ne croyait. Alors l'attentat dont je parle, c'est une façon de focaliser sur un fait les tentatives de réinterprétation de l'histoire. Il y a deux attentats au XXe siècle, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a deux qui sont particulièrement chargés. C'est celui de Kennedy. Quand on revoit l'atmosphère, enfin, les discours de Kennedy à l'époque, c'est très intéressant à suivre. Et puis, c'est celui-là, c'est-à-dire le 13 mai 1980. Alors, là, un type qui tire un coup de revolver comme ça, sur le pape. Le pape Jean-Paul II, polonais, qui est en ce moment, je ne sais pas, entre le Bénin et l'Ouganda, en train de faire sa tournée d'évangélisation, pasteurisation et autre chose, fait son métier. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les dessous de cette affaire. Voilà. Et alors, j'invente un narrateur qui est un agent secret, d'où le secret, qui aurait rédigé une note pour prévoir très exactement ce qui allait se passer le 13 mai 1980 sur la place Saint-Pierre de Rome, à savoir un type qui allait sortir un revolver et tirer à bout portant quasiment dans l'intestin de cette forme blanche que j'appelle, façon ironique mais en même temps sympathique, dans le livre Moby Dick. Hein, le pape, c'est une sorte de baleine blanche qui se balade comme ça sur la planète.
Une baleine
et puis alors, d'où ça
vient?
Oui, une baleine qui a maigri, bah, écoutez, vous savez, deux balles dans l'intestin. À son âge, hein, il faut le faire. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous en faites une affaire? Il n'est pas mort. Mais lui, quand il soit mort ou qu'il soit pas mort, ça change rien à l'événement. Voilà, alors cet agent secret, ben, il a rédigé la bonne note. La bonne note, c'est-à-dire que comme il n'est pas très important dans la hiérarchie des services, on se demande pourquoi c'est lui qui avait visé juste et on n'a pas considéré son rapport. Des projets d'attentat, il y en a tout le temps. Il y en a 30, 40 qu'on peut plus ou moins dépister comme ça tous les mois. Hein. Mmh. Et pourquoi c'est lui qui est tombé? Alors du coup, il devient suspect aux yeux de ses supérieurs. Et c'est l'histoire du roman, c'est comment il est un peu mis à l'écart, comment il est obligé de vivre de façon un peu difficile, surveillé, avec un sentiment de grande insécurité. Et alors le passage que vous avez cité au début,
oui,
m'a bien plu parce qu'il est obligé, étant donné qu'il est un peu mis à l'écart, de s'intéresser de nouveau à son petit garçon qui a 10 ans et avec qui il fait des petits spectacles de marionnettes le soir. Voilà, comme ça.
Ça, c'est un des points, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Cruciaux du roman, la relation d'un père avec son fils.
J'ai regardé ce qu'il y avait dans la bibliothèque sur cette question, elle est quasiment vide. C'est étrange, comme s'il y avait un énorme tabou, une inhibition, une interdiction à parler de ça. C'est étrange quand même qu'au cours du temps, il n'y a pas eu de livre écrit sur ce qui pouvait se passer entre un adulte et son fils de 10 ans. Le roman est fait de telle façon que la vie toute simple, la vie très 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 triviale, très très concrète de tous les jours de cet agent secret serve de balancement par rapport aux énormes affaires qu'il est en train de traiter et qu'il est obligé de se retrouver.
Mais en ce qui vous concerne, vous en tant qu'écrivain, il y avait déjà eu dans Les Folies Françaises un autre aspect du problème.
Ah, c'était un père avec sa fille.
Mm-hmm.
Enfin, si, c'est un père avec son fils. C'est, dans Les Folies Françaises, c'était l'histoire d'un type qui retrouve une fille qu'il n'a pas connue 18 ans après. Voilà. Et donc, avec un rapport entre guillemets incestueux, hein, qui se passe entre le père et sa fille. Là, c'est l'autre versant. Mais alors, je crois d'ailleurs que ça serait intéressant. C'est dans les romans. Ça m'intéresse de traiter à peu près tous les cas de figure. Qu'est-ce que c'est qu'une mère avec son fils? Qu'est-ce que c'est qu'un père avec son fils? Qu'est-ce que c'est qu'un père avec sa fille?
Et ici, qu'est-ce que c'est qu'un fils avec sa mère?
Et aussi, qu'est-ce que c'est qu'un fils avec sa mère, oui, de l'autre côté. Parce que je crois qu'il y a une grande confusion qui règne. Il faut analyser les différents versants des relations. Hein. Tout ça change selon la position qu'on occupe.
La biographie?
La biographie dans le roman, tel que je le comprends moi, c'est une façon de la rendre historique, c'est-à-dire de ne pas séparer ce qui est en train de se passer dans la vie la plus privée, la plus quotidienne, de la grande histoire, la petite histoire et la grande histoire, dialectiquement toujours en relation. Je trouve dramatique que la plupart des gens soient obligés d'être des spectateurs passifs d'une information qu'on leur donne, d'ailleurs la plupart du temps trafiquée et falsifiée sur une grande histoire qui les concerne si peu, exemple la guerre du Golfe retransmise en direct par CNN, et que de l'autre, leur vie se réduise à aller d'un point à un autre avec des ruminations très 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 rétrécies et qui sont obligés de considérer comme étant leur vie. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Alors moi, le roman tel que je l'entends, c'est ça, c'est qu'il doit y avoir un rapport entre la grande histoire et la toute petite histoire.
Mmh.
Le secret, Philippe Solaire, c'est votre 25e roman. Ça commence à faire. Et la publication du livre s'entoure d'un certain nombre de tentatives d'explications qui paraissent en même temps. Bon, il y a eu...
Non, ils sont parus un peu avant, sur la
page. Oui, il y en a certaines qui paraissent maintenant. Oui. Par exemple, le numéro de l'Infini, qui vient tout juste de sortir, s'ouvre par un entretien avec Bernard Comment, qui avait déjà été publié dans Rare Presse, et qui s'intitule « Logique du secret ».
Bon, et pour faire les choses et les expliquer en même temps, c'est pas comme ça, c'est pareil. Ouais.
Dans sa propre revue.
Voilà. On écrit, on se commente, on se copie. Moi, j'aime bien ça, faire la chose, expliquer comment je la fais, et la refaire, et en faire une autre en même temps, et continuer comme ça. Et si possible, c'est un grand problème, contrôler les conditions de publication. Ne pas être esclave de l'impression et de l'édition. Ça, c'est une vieille utopie que j'ai. Depuis le début, quand je faisais tel quel autrefois, c'est-à-dire avoir un lieu de publication où il n'y ait ni publicité, où une indépendance complète, on ne sache jamais ce qui va être publié à l'avance. Et c'est une forme, je crois, très parcellaire, mais subversive. C'est comme si on avait un territoire libéré, on pouvait dire exactement ce qu'on veut, à un moment donné. Dans la dernière période, il y a eu ce gosse. Cette pratique a été celle des situationnistes, souvent, enfin, c'est-à-dire contrôler une revue ou une maison d'édition, ou du moins une partie, pour qu'on ne sache jamais ce qui va être publié à l'avance et que ça tombe comme ça. Ça attire pas forcément les foules, mais enfin, quand même, petit à petit, par irradiation, cette espèce de lieu dont on ne sait pas ce qu'il va devenir, qui est à la fois... publie des textes, les commente, et un regard sur la société, en général assez corrosif, autant que possible. Bon, c'est quelque chose qui me plaît.
Mais il faudrait franchir un pas de plus et contrôler une chaîne de télévision, maintenant.
Oui, pourquoi pas, mais je veux bien. Mais enfin, ça m'a... Pour l'instant, voyez-vous, je n'ai pas de proposition directe. Mais enfin, je suis prêt à les entendre.
Alors, en même temps, il y a eu ce livre chez Gallimard, Le Rire de Rome, qui est un recueil d'entretiens avec Franz de Haas, bon, mais qui ne porte pas spécialement, évidemment, sur le secret. C'est sur l'ensemble. Donc,
c'est des entretiens qui datent d'ailleurs de un certain nombre d'années, c'était en 80, je ne sais pas quoi, 6. Oui.
Et ça, c'est publié dans votre collection.
Oui.
L'Infini.
Oui.
Oui.
Oui. Ça énerve beaucoup les grands groupes éditoriaux. Mais
bon. Y compris le vôtre.
Non, puisqu'il me laisse faire. Lui, il me laisse faire. Mais...
On n'ose rien vous refuser, chez Gallimard.
Oh, ben, vous savez, c'est dans un coin. Ça vraiment, étant donné tout ce qui se passe par ailleurs, l'énorme quantité de marchandises qui se distribuent, une petite marchandise dans un coin, ça ne va pas énerver des gens qui sont bien connus pour leur libéralisme idéologique, qui ont publié les adversaires les plus irréductibles au cours du temps.
Ce mois-ci, il y a une revue indépendante de Gallimard qui s'appelle « Lieux extrêmes ».
L'est-elle vraiment ?
qui publie un numéro spécial qui vous est consacré avec des textes de gens qui vous sont proches, évidemment.
Ben non, pas tous, il y en a que je connais à peine. Enfin, j'ai même pas vu les textes avant qu'ils paraissent.
Il y a un très long entretien que Christiane Lemire a fait avec vous, un entretien de plus de 50 pages.
Non, c'est Bernardo Toro.
Ah bon ?
C'est le directeur, qui est un Chilien, d'ailleurs.
Sans parler d'un autre livre, alors qui celui-là est publié aux éditions du Seuil.
C'est un grec aussi qui a écrit.
Qui vous est entièrement consacré, le livre de Philippe Forest.
Oui, c'est un Français, c'est un Français qui vit en Angleterre.
Donc il est excusable.
il y a des Grecs, des Chiliens, des Anglo-Français.
Alors ça, c'est un livre qui est publié dans la collection de...
Et puis Franz de Haas ne vit pas non plus à Paris, il vit à Bruxelles.
D'accord, pas de diversion, revenons au vif du sujet.
C'est intéressant de voir qu'il y a des gens dans différentes villes qui ne sont pas forcément en France.
Le livre de Forest est publié dans la collection Les Contemporains, qui est la collection que dirige Denis Roche au Seuil.
Oui.
Denis Roche, que vous aviez vidé de leur vie telle quelle.
Ah non, pas du tout. Il a démissionné tout seul. Non, il n'a pas été exclu, lui. Il a démissionné. Oui.
Vous voyez, il a encore une grande admiration pour vous.
Oui, on se demande pourquoi. Mais je ne sais pas. Oui, parce que mais Denis Roche est un écrivain important. Sans lui, on ne connaîtrait pas des tas de choses. Par exemple, en français, la première traduction des Cantos Pisans des Raparnes. Et puis, il a secoué la poésie. Il a essayé de la fouetter un petit peu, de l'enlever à son marasme traditionnel. Et puis c'est un type qui écrit sur la poésie. Non, c'est un écrivain moderne. Alors il y en a plus tellement moderne entre guillemets, post-moderne, enfin post-moderne. Mais c'est un excellent écrivain. Alors vous savez, finalement, les écrivains se fâchent ou s'excluent ou se démissionnent. Mais enfin, la complicité qui reste, c'est celle d'avoir la même technique, le même métier.
Le livre qui vous est consacré dans cette collection est deux fois plus gros que tous les autres.
C'est pas vrai.
Est-ce que ça veut dire que l'auteur n'a pas su couper ou bien que votre œuvre est plus importante?
Je sais pas. Au poids, peut-être. Je sais pas. Non, c'est un garçon qui a 28 ans qui a écrit ça. Je l'ai vu trois quarts d'heure. Il avait 22 ans, il y a 6 ans. Il m'a demandé, est-ce que ça vous embête si je fais une thèse sur vous? Je lui ai dit, mais non, vous faites une thèse. Et il habitait Édimbourg, puis maintenant il vit à Londres. Alors, puis je ne l'ai pas revu. Puis il est arrivé avec 800 pages pour faire une thèse à la Sorbonne, qu'il a soutenu très brillamment, sur les livres uniquement. Donc, il a lu les... Il se trouve qu'il y avait des livres à lire. Il les a lus. Vous imaginez un petit peu? C'est fou, non? C'est-à-dire qu'au lieu de venir bavarder, de s'intéresser à aux aspects de l'image que je pouvais avoir, ou des blabla idéologiques divers, il s'est tout simplement enfermé pendant 5 ou 6 ans, peu de temps en temps, en lisant les livres. Et puis il crée un livre sur ces livres. Voilà. Alors c'est un acte qui me paraît, pour l'époque actuelle, assez étonnant, puisque tout le monde sait que les gens lisent pas les livres, ce qui est écrit. De moins en moins, la lecture s'évapore. Alors bon, alors, il se trouve qu'il avait que ses livres entraînaient un certain nombre de questions. Voilà. Il a essayé de formuler, c'est clairement pas du tout dans le style universitaire. Voilà, puis ça fait un bouquin.
Donc c'est un livre qui vous a appris des choses sur vos livres.
Il m'a pas appris beaucoup de choses, moi, à moi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut m'apprendre à moi, sur moi? Le psychanalyste dépanné qui pourrait... Je crois. Non, c'est pas ça, c'est que... Lui, ce qu'il a vu, c'est que c'était cohérent comme projet, alors qu'on avait dit que c'était tout à fait incohérent, qu'il y avait des thèmes qui étaient absolument récurrents, que ça consistait à faire avec des formes apparemment différentes la même chose, alors que c'était pas apparu forcément aux critiques littéraires qui disent un peu tout et n'importe quoi parce qu'ils lisent 2 pages au début, une demi-page à la fin et 10 lignes au milieu.
Comment le savez-vous?
parce que je les connais. Et alors bon, la lecture est en effet en train de se perdre. Le fait de le lire, c'est un muscle, vous savez, c'est une activité physiologique, comme dit Philippe Roth, l'Américain que j'aime bien. Bon, mais maintenant, pour lire un livre, il faut quand même prendre un peu de temps, une semaine, par exemple. On le pose, on le reprend, c'est une activité physique. Si cette activité n'est pas entraînée, petit à petit, ce muscle s'atrophie et se perd, ce qui est bien le cas dans la société actuelle, semble-t-il.
Vous lisez beaucoup encore, vous?
Ah, moi, c'est une drogue pour moi, je passe mon temps à lire, oui. Oui. Je ne veux pas écrire sans lire. Lire et écrire, c'est la même chose. Donc, je passe mon temps à mettre la télévision sans le son. Et puis, de temps en temps, je laisse un coup d'œil et je continue ma lecture. Par exemple, en ce moment, voulez-vous savoir ce que je relis? Il me passionne les pensées de Pascal. Si vous voulez, on en parle. Les pensées de Pascal, c'est bien. C'est tout à fait revigorant. L'acte révolutionnaire, aujourd'hui, le plus simple, consiste à ouvrir n'importe quel classique de l'Antiquité et à le lire. Thucydide, Aristote, Platon. Voilà. Si on avait dit ça il y a 10 ans, ça aurait paru ridicule. Mais voilà, la situation a changé et on ouvre les pensées de Pascal et on est immédiatement dans une situation révolutionnaire. Pourquoi ? parce que la tyrannie qui s'annonce, qui va être extrêmement brutale, alors que tout le monde
parle de quelle tyrannie vous voulez parler?
La tyrannie planétaire qui s'édifie avec une grande force sous nos yeux, alors que tout le monde parle d'avenir de la démocratie, des droits de l'homme, patati et patata. C'est une tyrannie de la marchandise extrêmement brutale, de la marchandisation du corps humain dans tous ses états, dans toutes ses substances, dont les preuves affluent à chaque instant dans l'information, mais dont les gens ne font rien. C'est pour ça que j'écris un petit roman qui s'appelle Le Secret, pour rassembler cette information et déchiffrer ce qui ne s'y dit pas et plutôt ce qui s'y profile. Tyrannie qui va être, comme toute tyrannie, fondée sur l'anesthésie, l'esclavage, d'ailleurs volontaire, servitude volontaire des esclaves, et sur le fait qu'on va les dissuader de toute lecture. Enfin, il y a des textes de Voltaire fameux là-dessus, je ne vais pas les répéter. Une tyrannie, c'est simple, ça consiste à éviter ou à dissuader, à éviter la lecture chez les gens, c'est-à-dire la critique individuelle qui peut se faire par la mémoire, la pratique des connaissances diverses que l'on peut acquérir par soi-même en lisant. À partir du moment où on a comme ça à sa disposition des masses groupées de leur mémoire et de l'activité de la lecture, elles deviennent très raisonnables et elles vont là où on veut, quand on veut, dans la plus parfaite résignation, un petit peu agitée de temps en temps. Enfin, ça se calme vite, et s'il le faut, brutalement. Donc voilà ce qui s'édifie sous nos yeux, et il n'y a pas tellement d'écrivains qui en parlent, je crois pas. Et quoi ils parlent, les écrivains, j'en sais rien, c'est pas parce qu'ils les intéressent. Moi, je parle de ça. Je parle de la marchandisation généralisée et de l'analphabétisme et de l'illettrisme montant de partout et déferlant partout. Les enseignants le savent, les parents aussi, ils s'en foutent ou pas, ils vivent au jour le jour, ils s'endorment, voilà. Mais enfin, c'est ça la situation.
Vite, je parle, c'est-à-dire que vous écrivez en parlant. Vous parlez en écrivant.
Mais vous savez, c'est la même chose.
Vous adressez à l'oreille.
Vous savez,
un écrivain,
vous savez ce que dit Hemingway, que j'aime bien, parce qu'un écrivain, c'est direct, qui perd pas de temps. Un écrivain sans oreille, c'est comme un boxeur sans main gauche. Bon, ben voilà, c'est, tout est dit. Tous les écrivains sont intéressants, écrivent pour l'oreille, que ce soit Proust, Céline, Hemingway,
Rabelais.
Oui, voilà. Enfin, sans oreille, il n'y a pas d'écriture.
Cette phrase que j'ai citée, là, j'invente à peu près n'importe quoi.
Non, ça c'est pour décrire le spectacle de marionnettes que ce père, qui veut amuser son petit garçon, invente pour le distraire. Ce qui est étonnant, dans un monde d'électronique, de vidéocassettes généralisé, où les enfants sont désormais sur des ordinateurs. Moi, j'ai un fils qui manipule des ordinateurs. Je ne saurais même pas en faire le dixième, le millième. Bon, ce qui est intéressant, c'est la permanence d'un certain nombre de rituels très simples. Si vous allez en Italie, par exemple, vous êtes sur une place, vous voyez un type arriver avec un petit spectacle de marionnettes de rien du tout, vraiment de 4 sous. Hein, il commence à ouvrir, à faire ses marionnettes. Et les enfants, qui sont des enfants super équipés, qui sont déjà dans l'espace, dans des cabines spatiales, avec des jeux extraordinairement sophistiqués, sont enchantés de ce petit spectacle ridicule, hein, qui repose sur 4 mots, où on fait des petites agitations. Et en effet, c'est à peu près n'importe quoi. Hein. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui tient le coup? Qu'est-ce qui va durer dans un monde de mécanismes électroniques comme ça, qui implique aussi une déperdition de la lecture constante? Mais des choses, des petits rituels. Alors, les marionnettes, ça tiendra. La messe, probablement. La messe catholique, ça tient. Vraiment, c'est un spectacle fondé d'une certaine façon, mais enfin, quand même, par rapport à ce qui peut se faire à la télévision, c'est presque rien. Mais pourtant, ça...
Vous y allez souvent?
En Italie, je vais voir des messes parce que ça va. En Italie, elles sont assez. Parce que les églises sont belles. La messe, c'est un spectacle d'un certain type, hein, qui va tenir le coup aussi, comme les marionnettes.
Plutôt Saint-Nicolas du Chardonnay.
Ah non, Saint-Nicolas du Chardonnay est une vilaine église, avec des gens compassés qui font ça. Non, ça, j'en sais rien, j'y suis jamais allé, mais je m'en fous. Non, c'est peu importe. Il y a des messes partout en ce moment même, hein, du Brésil à l'Afrique, en passant par où vous voudrez. Ce qui m'intéresse, c'est la structure d'un certain type de spectacle. Hein, pour critiquer le spectacle généralisé. Qu'est-ce qui survit dans ces... Bon, comparer les marionnettes à la messe, c'est pas bien de ma part, mais enfin, je le fais. Mais au fond, c'est du même ordre. Ça veut dire que c'est une certaine fraîcheur qui consiste dans quelque chose. Voilà.
L'écrivain, lui, il est en dehors de tout ça.
L'écrivain, c'est l'agent secret. Il passe, il observe, il repère ce qui est en train d'avoir lieu. Hein. Il est en dehors, il est dedans et dehors à chaque instant. Il est mêlé à ce qui se passe, mais en train de prendre des notes, en train d'observer.
Mais vous le dites, l'écrivain menacé par un meurtre social.
Pour moi qui le dis, hein, vous savez, à la fin du XXe siècle, on aura vu quoi ? Un écrivain condamné à mort par un État parce qu'il avait écrit un bouquin qui s'appelle Les Versets sataniques. Et si vous êtes, vous, occidental de Paris, en train de parler de littérature sur France Culture, avec toute votre bibliothèque dans la tête, par exemple le Marquis de Sade, Diderot, etc., vous levez les bras au ciel, je vois le faire d'ailleurs, en ce moment même, hein, et vous vous dites, mais c'est pas vrai, Versets sataniques, j'ai regardé ça, à côté de Juliette et les prospérités du vice, bon, il y a de quoi ricaner. Bon, à supposer que qu'il y a encore des gens pour savoir ce qui se passe dans les livres de Sade. Bon, alors, vous avez quand même cette chose qui ne s'est jamais produite auparavant, un écrivain condamné à mort, qui est obligé de se cacher, qui apparaît de temps en temps. Bon, ça, c'est gros quand même. C'est gros pourquoi ? Parce que, en réalité, il peut y avoir un état fanatique qui condamne à mort un écrivain, ce qui est très révélateur, parce que c'est comme dit Hemingway, pour qui sonne le glas ? Ben, il sonne pour tous les écrivains, c'est pareil. Ben alors, il y a des formes beaucoup plus subtiles, beaucoup plus endémiques, c'est-à-dire le marché se charge aussi d'éliminer ce qui ne lui convient pas lorsque c'est de la littérature critique, qui critique la société. La société est radieuse, il n'y a pas lieu de la critiquer, publions des livres évacués en un mois ou deux, qui surtout ne critiquent pas la société. Donc il y a plusieurs façons de faire mourir les gens. Vous pouvez les condamner à mort, vous pouvez les exécuter. Il y a déjà des gens qui sont morts pour la faire Rushdie. Hein, ou alors, vous pouvez les pousser de façon systématique, ça c'est la rotation financière qui s'en charge, vers l'oubli ou vers la non-publication, par exemple.
Rushdie lui-même dit que c'est la guerre entre les gens qui lisent et ceux qui ne lisent pas.
Oui, c'est une phrase très touchante qu'il a dite quand on est allé l'interviewer là... En Angleterre, décidément. L'Angleterre, décidément. Ben, il a dit ça tout à coup. Il a l'air très dépassé par tout ce qui lui arrive, parce que c'est extraordinaire comme aventure. Ces États, l'État qu'il condamne à mort a des rapports commerciaux avec tous les autres États, des rapports très importants, des contrats se signent à chaque instant. Donc il est négociable éventuellement. C'est même étonnant qu'il ne soit pas encore tombé dans un escalier ou qu'il n'ait pas été liquidé en douce. Bon, c'est très intéressant. Et il a dit ça. La lutte entre les gens qui lisent, ça va être la guerre entre les gens qui... C'est la guerre. Hein. Le Secret, c'est un livre sur la guerre. Avec des considérations sur la guerre défensive et la stratégie. La guerre entre les gens qui lisent et les gens qui ne lisent pas. Que ça veut dire, c'est énorme. Vous imaginez que ça va faire David et Goliath, ça. Parce que les gens qui ne lisent pas, il y en a des flopés. C'est encouragé, en plus. Les gens qui lisent, il y en aura de moins en moins, un peu comme au Moyen-Âge, il y avait des moines dans des monastères qui savaient un peu de latin, qui recopiaient souvent sans comprendre. Alors voilà, pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il a reçu de plein fouet cette énormité de foules entières en train de brandir des portraits de lui, avec des petites filles en tchador, qui disent « We want to kill Rushdie », nous voulons tuer Rushdie, il ne savait même pas lire, il ne savait même pas ce qu'il y avait dans les versets sataniques, on sait bien, à peine dans le Coran, et encore. Donc voilà, on va arriver à ces manifestations plus ou moins visible. Moi, je parle de Rushdie parce que c'est vraiment énorme. Mais je crois que n'importe quel écrivain doit sentir ça de façon diffuse.
Alors Philippe Solers, compte tenu de tout ce qui précède, l'art du roman, qu'en est-il ?
L'art du roman, il doit être adapté à l'époque où le roman se passe. C'est pas la peine d'écrire des romans qui ne parlent pas de l'époque où se trouve le romancier. Mmh.
Et mais là, c'est toute l'époque qui défile dans le secret.
Et alors l'époque, elle passe dans le roman. Et puis c'est dans le roman qu'on va chercher le sens de l'époque, parce qu'on la trouve pas chez les historiens, ou du moins de loin. On la trouve pas non plus dans les journaux, ou alors ça vieillit. C'est-à-dire, il faut qu'un romancier s'en occupe. Là, le mot de Balzac, c'est l'envers de l'histoire contemporaine, me paraît toujours valable. C'est-à-dire qu'on prend l'histoire contemporaine et on essaye d'en décrire l'envers, les coulisses. La part d'ombre, comme dirait Plenel, dans un excellent livre qui nous explique comment, en effet, la police, depuis 10 ans, les polices parallèles ou la surveillance des citoyens, elle n'a fait que s'accentuer, ce dont peu de gens sont, semble-t-il, conscients. Pourquoi De Gaulle a-t-il été renvoyé ou licencié après 68? C'est parce que sa police n'avait pas vu venir la chose. Et ben depuis, la police est la police. Si le mot police vous gêne, comme dit un bon auteur, vous en employez un autre. La surveillance, disons, des citoyens est devenue beaucoup plus étroite. Bon, alors le roman, c'est ça, c'est l'envers de l'histoire. D'ailleurs, Balzac était un très bon technicien de l'envers des choses. Je crois que le Plenel reprend la même citation de Balzac dans son livre. D'ailleurs, c'est curieux, c'est « Les sociétés passent, les régimes passent, la police est éternelle ». Encore une fois, si le mot police vous gêne, vous en employez. Donc, le roman, c'est ça. Alors, énergique, plus ou moins sur le coup. C'est pas la peine d'écrire des romans qui ne décrivent pas la société du temps. Alors, pour décrire la société du temps, il faut se lever un petit peu de bonheur, parce qu'elle est quand même extraordinairement éclatée, en apparence, extraordinairement diversifiée. En apparence, extraordinairement psychotique et folle en apparence. Souvent, les Américains s'en rendent mieux compte que les Français, qui sont, comme qui dirait, encore une fois, anesthésiés. Je sais pas, on leur a fait l'opération surprise. Ils ont l'air à bout de souffle, ces pauvres Français. Les Américains, souvent, sont plus énergiques, c'est pas, ils sont bousculés. Ou alors, ils ont une technique de survie plus forte. Mais il faut donc se débrouiller avec la société telle qu'elle est. Alors, moi, je fais une documentation, je m'enseigne, je regarde un peu. Voilà, ça donne un roman. Alors, on me dit, mais c'est pas un vrai roman, parce que un vrai roman, c'est plus lent, un vrai roman, c'est une histoire, c'est une histoire plus calme. Pourquoi vous décrivez une réalité aussi explosive? Je dis, vous ne trouvez pas que la réalité est explosive, et tant pis, rentrez chez vous, dormez, et puis lisez les romans de la collection Harlequin. C'est pas mon problème. J'essaye de voir, moi, ce qui se passe réellement. Le roman, c'est la science du réel retourné.
C'est-à-dire qui révèle les secrets de fabrication.
Qui révèle surtout la façon dont on fait vivre les gens dans l'ignorance de ce qui les regarde. C'est-à-dire... c'est l'art politique ou l'art du gouvernement. C'est les maintenir à distance de ce qui devrait les regarder légitimement, s'ils s'intéressaient à l'urgence de leur propre vie. Donc de les amener petit à petit à l'usure ou à la disparition sans qu'ils aient trop protesté. Le roman, c'est de la critique sociale. Oui, c'est ça. Ouais, vous allez lire dans Proust comment ça se passait, même si c'était le Faubourg Saint-Germain et des aristocrates, vous allez comprendre les passions, les vrais intérêts de l'époque.
Alors là, vous
passez l'argent, par exemple. Les romanciers ne parlent pas d'argent, on se demande pourquoi. Mais moi, je donne des chiffres précis sur les greffes d'organes, sur la façon dont un Indien fait vivre sa famille en vendant sa cornée, son carré de peau, son foie, sa rate, comment un donneur de sperme va faire son don et combien d'argent il touche en sortant, et comme il est déçu si son sperme n'est pas congelable, par exemple. Ça se passe en ce moment même, vous savez, ça. Mmh. Mmh.
Donc votre modèle, c'est Zola?
Zola, j'ai relu l'argent, justement, pour voir si... Zola n'a pas une technique assez complexe. Je préfère Balzac. C'est un romancier que je crois plus... Ou Proust. Ce sont des romanciers plus subtils, plus nuancés, plus... moins...
Zola se documentait...
Non, mais tous les romanciers... Vous croyez que Proust ne documentait pas? Mais la documentation passe aussi par la vie qu'on mène. Hein. C'est une certaine façon de vivre. Mmh. Donc, il faut aller sur le terrain et s'embêler.
Mais comment vous...
Il faut aller dans les boudoirs.
Comment constituer votre documentation?
Il faut avoir des relations sexuelles imprévues, oui. Pardon. C'est ça, le romancier.
Comment vous constituez votre documentation? Ce sont des...
Comment je situe
votre documentation? Coupure de presse?
Oui, renseignement. Coupure de presse, oui, parce que c'est intéressant de voir comment la presse dit les choses, mais ne les dit pas, ou du moins les recouvre d'un tissu idéologique. Alors il faut deviner ce qui ne se dit pas entre les lignes de la presse. La presse, pas seulement française, internationale. Les informations souvent viennent, encore l'Angleterre, souvent, les meilleures viennent de la presse anglaise, parce que c'est une presse d'investigation. L'Observer, par exemple, il y a des choses épatantes. Par exemple, dans Le Secret, je reprends toute une enquête de l'Observer sur le massacre de Katyn. Bon. Avec interrogatoire, des Russes encore survivants qui ont procédé à cette exécution énorme, dont on nous a raconté pendant 50 ans qu'elle était l'œuvre des nazis, alors qu'elle était l'œuvre des soviétiques, avec un ordre signé de Staline lui-même. Hein. Mm. Donc ça fait beaucoup de monde de tuer individuellement d'une balle dans la nuque, donc crime contre l'humanité typique. Bon. Alors les Anglais sortent souvent les choses en premier. C'est vrai.
Le secret qui a derrière tous les secrets. Hein, parce qu'en fait, ce livre, c'est aussi une espèce d'archéologie du secret. C'est-à-dire qu'on y trouve toutes les formes de secrets possibles.
Bah, la naissance, la mort, hein, pour finir. Mm. Qu'est-ce que c'est?
Mais donc, le fond, ça ne serait pas l'incrédulité générale dont on parle depuis le début de l'émission?
L'incrédulité, oui. C'est-à-dire que là, le...
Pour revenir au pape.
Oui, mais alors là, le problème est compliqué, parce que moi, mon modèle, en un sens, de roman, je le cite presque dès le début, je trouve que c'est un livre fulgurant qu'on doit relire tout le temps, je trouve, parce que c'est... Il faut se demander comment ce livre a pu être écrit. C'est Candide de Voltaire, c'est tout simple. Ça n'a l'air de rien, c'est un petit livre qui a fait beaucoup d'effet à l'époque, pas simplement, il mettait en scène l'absurdité, le chaos, sous une forme ironique. Parce que si on le fait de façon plaintive ou revendicatrice seulement, c'est là le point où Zola n'est pas mon auteur, c'est Voltaire plutôt. Parce qu'il faut faire rire en même temps qu'on effraie. Il faut que ça soit horrible mais bouffon en même temps, sans quoi ça n'est pas efficace. Il faut faire trembler et en même temps soulager immédiatement par un rire qui devient une acide qui ronfle. Donc c'est Voltaire plutôt qui... Alors l'incrédulité, oui, mais il peut y avoir aussi une incrédulité qui n'est pas critique. Par exemple, moi je crois rien, je me fous de tout, tout ça c'est pareil, tout se pourrit, tout dans le même sac. Non, ce qui est très 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 à la mode. Ça, c'est ce que j'appelle un comble de crédulité qui se croit incrédule. Hein, c'est-à-dire, il n'y a rien à croire. Bon, alors, s'il n'y a rien à croire, la mafia, oui, tout est mafia. Mais, non, mais la mafia, c'est pas la mafia, c'est quelque chose qu'il faut analyser. C'est pas tout est dans tout et réciproquement. Donc, je ne pense pas que Voltaire était du tout quelqu'un d'incrédule. Je pense que c'était quelqu'un qui agissait par conviction. Et si on ne sent pas la conviction dans mon incrédulité, alors j'ai raté mon coup. Mmh.
Les choses auxquelles vous croyez, c'est quoi?
Ben, Il faut le lire entre les lignes. Je crois que une littérature sur laquelle on met l'étiquette est mauvaise. Les gens viennent me voir et puis me disent « Alors, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors, je dis que nous allons examiner cette proposition. Croire, Dieu, etc. Comment, bon, est-ce que vous croyez à ceci ? Est-ce que vous allez nous donner des valeurs ? Alors, on quitte son rôle d'écrivain, on devient charlatan. Mmh. Eh bien, il faut maintenir fermement le fait que les choses auxquelles on croit ne peuvent se dire que sous une certaine forme. C'est ça, la littérature. Mmh. Alors, disons que je crois à la littérature.
Alors justement, c'est un peu le sens de la première phrase que j'ai prononcée dans cet entretien, en disant que le secret, c'était un retour. Le retour à cette littérature à laquelle vous croyez.
Mais moi, je n'ai jamais quitté la littérature. Jamais. Je n'ai fait que ça. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps un type qui prend des livres et qui les lit. Qui ne s'occupe pas principalement de ce que je peux apparaître ici ou là comme étant ceci ou cela. Il prend les livres. La vérité est dans les livres, voilà. C'est justement ce qu'on voudra interdire de plus en plus aux gens de penser en leur interdisant la lecture ou en faisant des handicapés de la lecture. Mmh. La vérité est dans les livres. Je répète, la vérité est dans les livres.
Et dans ce livre-là, il y a aussi une chose qui n'est pas forcément dans les livres précédents, c'est l'émotion.
Alors, un certain nombre de critiques, d'ailleurs gentiment, on dit que c'était pour la première fois que l'émotion apparaissait. Bon, je ne vais pas vous amener des passages d'émotion des autres livres. Enfin, bon, disons que... Oui, parce que y a le récit d'une mort, et c'est le récit de la mort de la mère du narrateur, mais je pense que c'est fait... Qu'est-ce qui a pu attirer l'attention à ce que c'est fait sans sentimentalisme, sans le pathos habituel? C'est fait de façon très froide et sensible en même temps. C'est très difficile à faire de décrire un sentiment de positivité jusque dans la mort. C'était pour parler de la mort comme on le fait pratiquement jamais, sans pathétique, de façon serrée.
Le secret de Philippe Solers chez Gallimard, et je rappelle Lieux Extrêmes numéro 4, une revue qui consacre un numéro spécial à Philippe Solers. Je rappelle également Le Rire de Rome, des entretiens avec Franz de Haas chez Gallimard, Collection L'Infinie, et le livre de Philippe Forest, Philippe Solers, Au Seuil, Collection Les Contemporains.